Et voilà, on s'absente un week-end et il n'y a plus personne. Il n'y a personne, ni Thomas, ni Dus. Je sais pas ce qu'ils font. Bon, tant pis. Oh là là. Ah, 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 ah. Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 30 avril 2011. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, résultat sportif en direct des vestiaires, l'infirmerie à 15h du reggae. Avec Zarma Fari, si je me trompe, à 17h, FMR, c'est de l'antenne pour le décrochage local à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le compte-rendu princier, voire même royal, que vous attendez tous. Précédemment, dans le supplément week-end.
Également sur... Notre chaîne encore toute une merde sur cette cérémonie. Donc là vraiment vous êtes pas gâtés. Vendredi prochain, j'espère qu'il fera beau, vous pourrez sortir et restez pas devant votre télé. Ou alors c'est que vous êtes vraiment un petit peu pervers, hein, de toute façon. Y a pas de problème.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport. Ultimatum.
Excusez.
Daskreech. Et la participation exceptionnelle de JB. Non, non, pas du tout. La participation exceptionnelle de JB, c'était la semaine dernière, si vous l'avez écouté. Et du sport, du coup, était aux manettes, puisque je n'étais pas là. Cette semaine, c'est Thomas qui est excusé. Il faut dire qu'il doit absolument préparer la béatification du 1er mai au nain du Parti communiste qui se retrouve ruiné parce que les pieds nuguets ont fleuri trop tôt. Ils vont pas pouvoir les vendre à la sauvette à cause de la loi Lopsi 2 qui maintenant interdit ce genre de démarchage sur la voie publique, etc. On s'en fout. Vous écoutez le supplément week-end et le programme cette semaine va pas être inintéressant, loin de là. Oula, j'ai fait un enchaînement un petit peu sec, excusez-moi, puisqu'on va parler un petit peu de drague, on va parler aussi de choses complètement marteaux, on va parler d'un long destin de dimanche, mais qui n'est pas de fiançailles, on va aussi parler de 5-0 et de plein d'autres choses. Mais en attendant, je voudrais peut-être, pour ceux qui nous suivent et qui sont à Toulouse et qui nous écoutent en direct ou qui nous écouteront cette semaine sur le podcast, signaler que du 6 au 8 mai aura lieu donc le 5e festival de la bande dessinée à Toulouse, que normalement on aurait dû recevoir Michel Joss, l'un des co-organisateurs, mais pour différentes raisons, on s'est loupé, etc. On devait préenregistrer, ça n'a pas pu se faire. Néanmoins, ça ne m'empêche pas de vous indiquer qui sont les auteurs qui sont présents. D'abord, le thème fera énormément plaisir à celui qui porte le t-shirt Hélas Verona, qui est devant moi, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'une transformation de la place du Capitole, c'est-à-dire la place de la mairie à Toulouse, en stade de rugby. Et qui dit rugby dit bien évidemment présence des BK que l'on avait reçu donc sur dans cette émission, donc les auteurs des rugbymen qui sont vraiment bon enfant et vraiment extrêmement sympa, et ben ils seront là pour dédicacer leur BD bien hilarante. Donc ça tombe bien, on les aime beaucoup et je vous recommande franchement d'aller les voir parce qu'ils sont, ils ont pas la grosse tête, ils sont vraiment adorables. Sont aussi présents Bush, qui est le dessinateur de Frank Snow, Doug Whitley, qui dessine entre autres l'adaptation, une adaptation en comics de Star Wars, Le Fab, qui fait une parodie autour de World of Warcraft, une parodie, voilà. HD qui dessinait CRS à une époque et qui maintenant dessine la reprise de Lucky Luke. Olivier Ledroit sera présent, Coyote aussi pour Little Kevin et voisin, Noriel pour Naman, Lucille Thibaudier pour ma fabuleuse boîte à fabulettes, ça c'est plus la BD pour enfants. Les Zappeurs sont présents avec Ernst, il faut dire qu'il est de la région Cède, les démons d'Alexia. Qui est une BD qu'on vous recommande plus que tout, dessinée par Benoît Ernst sera présent, Hugues Labiano pour Black Hop, qui est une série terminée chez Dargo, Ils étaient 10 de Eric Stalner, série là aussi terminée, je crois d'ailleurs, il me semble, enfin je vois mal comment elle peut continuer, d'Eric Stalner, Dabs sera là pour Tony Alberto, Eric Lambert pour Merlin, Wessinger pour Cerber. H. Tonton sera là pour Petit Bonheur, une BD qui ne dit rien comme ça, hein, mais qui parle de l'occupation, et une BD qui, comme ça, semble toute mignonne et tout ça, mais qui se finit très mal. Le prophète Merlin est dessiné par Denis Pierre Gou qui sera présent. Les Princes d'Ambre, adapté par Benoît Delac. Le Livre des Destins, dessiné par Franck Biancarelli, aussi sera présent au Festival BD de Toulouse. C'est pas évident, hein, d'éviter les répétitions de style et tout ça. Nolad dessine l'adaptation 20 000 siècles sous les mers. Bon, excusez-moi, je dis une bêtise. Serge Carrère, étant toulousain, même s'il dessine les aventures du Marseillais Léo Loden, sera présent. Alain Grand sera présent. Raphaël Bromenschlager, qui était plus ou moins à l'origine justement du festival BD, de ce festival BD, puisqu'il y en a plusieurs sur Toulouse. François Amoretti, dessinateur d'Alice au Pays des Merveilles. Alain Julie pour Vélomaniac, ouais, un thème sur le sport. Hein. Koé, le grossier personnage, mais le dessinateur d'Asté sera présent en dédicace. Ce futuriste est une série dessinée par Jules Stromboni. Et donc il sera présent, je vais y arriver. Eric Stoffel sera présent. Et Devig, qui fait une parodie autour de Tintin, dessinée par Philippe Guéluc. Le Troisième Œil est dessiné par Espé, qui lui aussi sera présent. Stan Silas, Raphaël Drahé, Lupano, qui fait la parodie Sarkozyx chez Delcourt. Paul Salomon, dessinateur de L'Homme qui n'aimait pas les armes à feu. La recherche d'emploi qui est dessinée par Joris Chamblin, bah là lui aussi sera en dédicace. Béja sera en dédicace aussi pour les Griffes du Hasard. Nathaël pour Nolimé. Pascal Crossi pour Auschwitz. Christophe Auchard. Joël Azara, dessinateur de Takatakata. Mais ça fait. Ça a commencé dans les années 60, hein, voire même fin années 50. Vanida sera présente pour L'année du dragon. Et elle est adorable. Marne Guessant sera présent pour l'adaptation en bande dessinée de la bande du film Arthur et les mini-mois. Marek sera présent aussi pour Match décisif. On est toujours sur le thème autour du sport. Grun autour de Mélonome. J'en suis qu'à ça. Oula. Stéphane Ferrand pour Ulysse. Pedro Rodriguez pour Jules Verne. Chandre pour les adaptations en bande dessinée d'Agatha Christie. Ursus qui est dessiné par Xavier So. Gilali Defali pour l'adaptation en bande dessinée du jeu vidéo Assassin's Creed. Enfin, en tout cas de la franchise, hein, puisque maintenant il est question plus ou moins de faire plusieurs courts-métrages. Franck Coste pour la chronique de l'aéronautique. José Correa pour j'arrive pas à lire, voilà. Et Elsa Brandt pour Lydie. Voilà, tout ce beau monde sera présent sur la place du Capitole en accès libre, puisque c'est ouvert à tous du 6 au 8 mai sur la place du Capitole, qui sera transformée en stade de rugby, je suppose. Quoi que ce sera peut-être beaucoup plus large, puisque le thème c'est la bande dessinée et le sport, et c'est Bûche qui a réalisé cette année l'affiche. Du sport est arrivé. T'arrives plus à l'heure, hein. Je vous laisse absent pendant une semaine, et puis on a écouté l'extrait, ça rigole à la fin, plus de fond sonore, je vois. Hein. Tranquille à la bonne franquette, tu vas bien ?
Oui, ça va. Ouais.
Bon, hier t'as mis quelle chaîne ?
J'ai pas mis de chaîne.
T'as réussi à tenir 24 heures sans télé, c'est très fort.
Ouais.
Nous, on a craqué, on a foutu la BBC parce que les commentaires et la version française sur les sermons, ça commençait à me faire un petit peu lourd. Alors bien évidemment, j'oubliais le plus important, si vous voulez tout le programme, parce que vous habitez sur Toulouse et vous êtes disponible donc entre le 7 et le 9 mai, et que vous souhaitez aller à la place du Capitole, Tout le programme est sur festival-bd-toulouse.com et donc là vous recevrez donc toutes les infos et tout ce qui va avec. On va commencer les sorties bande dessinée avec du costaud. Ça, je sais qu'il y en a qui vont, que ça va plaire tous, bande d'obsédés. Il s'agit de que sa volonté soit faite, qui est une série qui est sortie en 2 tomes chez Kana. C'est un manga. Le 3e tome devrait arriver courant la semaine prochaine et dessiné par Tamiki Wakaki. Alors, avant de commencer cette chronique, il me faut expliquer un concept de jeu vidéo qui est quasi inconnu en France. Mais qui est assez populaire au Japon. C'est un type de jeu d'aventure comme on en faisait au début des années 80. C'est-à-dire qu'on se balade de pièce en pièce dans un lieu, on est en vue subjective, on rencontre des gens et on tient des sortes de discussions. On a le choix en moyenne entre 4 répliques pour chacune des réponses que l'on vous donne. Et suivant le type de réplique que vous allez choisir, votre interlocuteur peut vous aider dans votre quête, être indifférent ou carrément hostile. On parle de jeux d'aventure, qu'un nombre très restreint d'options pourrait très difficilement le comparer à l'époque aux jeux de rôle tels qu'ils se pratiquent sur table. Ben, 30 ans après, figurez-vous que ce type de mécanisme de jeu existe toujours et est donc très populaire, mais dans une variante très spéciale, le jeu de drague, ou plus prosaïquement, simulation romantique. Rainma Simulation Game. Je me suis un petit peu entraîné. Ceci dit, ça veut dire c'est tout simplement la prononciation japonaise du mot anglais Romantic Simulation Game. Donc c'est relativement simple. Bon, soyons clairs, la plupart du temps, les amateurs de ce genre de jeu sont plutôt des garçons, quoiqu'il existe un public féminin d'ailleurs qui est plutôt important, mais pas pour les mêmes titres, forcément. Et en général, de gros puceaux. Et ben, c'est exactement le cas de Keima Katsuragi, le héros, un lycéen qui achète tous les titres de jeux de drague, les termine tous. Il est une référence sur les forums spécialisés sous le pseudo le Dieu Tombeur. Mais il est tellement vissé à sa PSP que jamais il n'a osé regarder en face une fille et dire des mots dans l'intention de lui faire chavirer son cœur. Sauf qu'un jour, en répondant à un email particulièrement bizarre, apparaît soudainement devant lui Elsie, une fille étrange qui l'embarque dans les airs, ainsi qu'un collier autour de son cou. Sans le savoir, Keima a signé un contrat avec les enfers où il doit récupérer pour leur compte des âmes damnées, et dont l'échec est condamné par la décapitation. Donc ouais, il n'y a pas de plus étrange que la réalité par rapport aux jeux vidéo, et finalement, faut bien lire ce qu'on vous envoie par email, ça peut tenir lieu de contrat. Voici donc Keima, qui se retrouve à rattraper donc les âmes terribles issues des prisons de l'enfer. Et d'ailleurs, comment se réfugie-t-elle sur Terre ? Dans les anfractuosités du cœur des personnes innocentes. Le seul moyen pour les en déloger étant alors de provoquer un immense sentiment chez l'humain victime, si possible avant que leur âme pure ne soit submergée par le démon en eux. Voici donc Keima qui, sur les ordres et l'assistance très maladroite d'Elsie, doit séduire des filles en vrai, en 3D, chair et os, au point de leur obtenir un baiser, mais attention, pas de triche, un baiser sur la bouche. Alors, quand on est suivi par une fille jolie comme un cœur, déguisée comme une fée, avec un balai, pas forcément dans le cul, et qui est en fait un démon qui attend avec impatience que vous roulez une galoche avec une autre fille prédéterminée pour y mettre en bocal le monstre qui se cachait dans son cœur... Ouais, ça change un peu de la vie de lycéen, forcément. Ajoutons qu'Elsie n'arrête pas d'appeler Keima Dieu. Bref, surtout que c'est proche de la prononciation de Camille. Enfin bon. Bref, vous avez une comédie qui va être très riche en quiproquos, mais dont l'échange salivaire n'intervient qu'en dénouement de l'histoire. Ou pas. La série a été adaptée l'année dernière en animation. Alors, faut vraiment se plonger dedans pour apprécier. Mais le graphisme très léché et l'humour très spécial du manga, ils sont bien rendus. À vrai dire, comme le DA a été diffusé en France sur une chaîne que je laisse du sport deviner, avant la traduction du manga, ça m'a fait un petit peu bizarre de le découvrir dans l'autre sens. Que sa volonté soit faite, tome 1 et 2 déjà sortis, le tome 3 devra arriver cette semaine, c'est chez Kana et c'est de Tamiki Wakiki. Ah, je vais y arriver. Tout à fait autre chose avec un long destin de sang qui se conclut. Donc le deuxième tome signe la fin de cette histoire complète de Laurent Frédéric Bollet et Fabien Bédouel au dessin. C'est aux éditions 12 bis et on va reprendre le postulat du premier tome. Le dimanche 31 mars 1918 tombera sur Paris un obus allemand tiré par la tristement célèbre Grosse Bertha. Ce matin-là, le square public est relativement fréquenté par un peu tout le monde. Une institutrice, un policier, un journaliste, des soldats démobilisés. Un de ses passants va mourir, mais il se peut que ça soit pas à cause de l'obus. Un long destin de sang est une tragédie, en deux actes, dont nous connaissons depuis le début comment elle se finira. Mais pour la comprendre, cette histoire va nous faire revivre les 24 dernières heures des 8 protagonistes de ce sinistre événement. Alors, qui sera tué et pour quelle raison? Jalousie, rancune, meurtre crapuleux ou raison d'état? Pardon, je vais le refaire différemment. Alors, qui va se faire tuer et pour quelle raison? Jalousie, rancune, meurtre crapuleux ou raison d'état? Non, je le fais pas assez Pierre Belmar, hein, je pense. Je suis pas à niveau.
Ah, je pensais que tu voulais faire Carl Zéro.
Mais non, Carl Zéro, c'est différent. D'un acteur appelé sous les drapeaux, frère d'un député, lequel a trompé à maintes fois sa femme. D'un journaliste qui enquête sur des photos ramenées par un soldat en permission, qui croise ses informations avec un policier, lequel enquête sur les activités pacifistes d'une institutrice, laquelle est en bisbille avec l'imprimeur de ses tracts. Bref, ce diptyque est extrêmement dense. Il serait dommage de se concentrer plus sur un personnage de ce drame choral dans cette chronique. Car il n'est pas vraiment. Il n'est même pas question en fait de vous donner plus d'éléments que ça de l'histoire. C'est à vous de découvrir, car cette BD est un formidable polar. Laurent Frédéric Bollet est une plume connue du journalisme sportif, mais c'est aussi un scénariste qui a maintes fois prouvé son talent. Pour cette histoire, il s'est associé avec Fabien Bédouel qui trace les visages avec un trait abrupt et sec. Ce qui soutient encore plus le côté noir, très noir de l'histoire. Comme je l'avais dit en faisant la chronique de la première partie en mai dernier, la lecture de cette BD donne furieusement envie de se pencher sur le moindre détail, aller chercher dans les livres et sur internet des références. C'est un roman sur un fond historique, en costume donc, qui donne furieusement envie d'en savoir plus sur cette sale guerre. Un long destin de sang. Le deuxième et dernier tome est sorti aux éditions 12 bis, dessiné par Fabien Bédouel et dessiné par Laurent Frédéric Bollet. Et pour info, le dimanche 31 mars 1918, à Paris, il fera beau. Très beau. C'est pour ça que tout le monde était au square. D'ailleurs, à Toulouse aussi, il fait beau, très beau, mais ma foi, je crains un début d'orage, je sais pas... Si, moi je pense que ça...
Il fait pas assez chaud, là.
Ça risque un peu. Enfin, ça risque un peu... Moi, je dis que ça commence. Même que avec le vent qui rentre, ça devient de plus en plus difficile. Je pense qu'il va falloir gueuler. Mais du sport, dis-moi, pourquoi tu as ramené des outils dans le studio? Enfin, lui, il ménage son entrée, c'est terrible.
Ah non, mais j'adore cette musique, alors.
Interprétation par Van Karajan, hein, je suis sympa.
Enfin, il interprète pas, lui, il dirige.
Oui, il dirige.
Alors du
pain, par la pain.
Un petit peu de paquet de Thor.
Oui, c'est pas la trétalogie de Wagner, même reprise par Leiji Matsumoto dont on va vous parler aujourd'hui, mais bel et bien d'une histoire qui rend complètement marteau le monde du comics, à savoir comment un dieu de la mythologie viking a réussi à s'imposer dans le monde des super-héros créé de zéro.
Ouais, il y a un bout de temps, hein. Thor est apparu pour la première
fois dans le Wall, hein, non ?
Au début des années 60, à la même époque pratiquement que la création de Spider-Man à un an ou deux ans près, et comme faisant partie des Vengeurs originels, eh bien il est apparu alors que les Vengeurs venaient pratiquement d'être créés. Et Thor, eh bien, grâce à, on va dire, la conjonction des talents rédactionnel de Marvel et aussi de la... Comment expliquer ça
Oui. Désolé, je tweet. Hein.
Tu vois, c'est agréable et tout. Quoi. Ils sont dans leur coin, ils tweetent et tout. Et toi, démerde-toi. Alors, et surtout, parce que maintenant, il y a une conjonction qui est créée depuis plusieurs années entre les studios Marvel, c'est-à-dire qui produisent leurs propres films.
Oui, c'était ce que l'on avait déjà parlé donc il y a 15 jours, voilà, où en fait, ils étaient partis d'une expérience où ils n'étaient pas très contents de la manière dont ils avaient un petit peu perdu le contrôle pendant la production des X-Men.
Ouais, mais c'est surtout aussi histoire de pognon, quoi. C'est-à-dire que bon, histoire
aussi,
de droit. Hein,
Ok, nous aussi, on peut emprunter auprès des banques. Hein, on est sorti d'affaires puisque Marvel a failli couler. Hein, il faut le répéter, il y a 10 ans. Maintenant qu'ils ont l'assise financière, d'accord, on peut emprunter. Nous, on peut faire comme les studios. On emprunte pour produire. Je vois pas où est le problème.
Et surtout, comme ils sont tombés dans le giron de Disney. Je veux dire, ils ont une assise financière qui est relativement importante, on va dire, hein, en mettant des guillemets un petit peu partout. Et là, eh bien, on peut dire que auparavant,
ça évite les idées foireuses des producteurs.
Auparavant, la vie des comics et les histoires développées dans les comics avaient leur fil propre, c'est-à-dire que il y a une continuité qui leur était propre. Les films au cinéma, c'était autre chose. C'était un média complètement différent, un médium complètement différent. Donc eh bien, rien à voir, laisser pisser, c'est pas la peine. Alors que maintenant, eh bien, on peut dire que la grosse armada est quand même lancée. Hein. Et ça, c'est pas tellement dû au succès des films X-Men, mais plutôt au succès de films plus récents, comme par exemple Iron Man. Et
Que X-Men, c'est un peu ce que je disais à propos de Un long destin de sang, c'est-à-dire que c'est un film choral, tandis que là, on est sur un super-héros en particulier.
Oui, mais pour arriver au film choral, hein, de l'année prochaine, on en a déjà parlé.
C'est la construction, voilà.
Oui, c'est-à-dire qu'on prévoit un petit peu à l'avance, on met quelques petites scènes bonus, quelques petits indices cachés comme ça à la fin des films, après le générique, histoire de faire saliver le geek.
Il y a même Samuel L. Jackson qui a carrément perdu son script complet.
On va voir ça un petit peu plus tard. Et donc, on en arrive donc à Thor, le film qui est sorti sur vos écrans depuis mercredi. On va avoir droit à un certain Captain America qui va débouler cet été.
T'as oublié un détail assez important, il est sorti en France 15 jours avant les États-Unis.
Oui, mais enfin bon, ça se comprend un petit peu parce que Thor est un super-héros un petit peu spécial. Hein, c'est pas le super-héros classique, c'est pas un mutant. Hein, comme la majorité des super-héros de chez Marvel, c'est un dieu qui existait avant que Marvel soit créé, tu vois, puisque c'est quand même une mythologie
largement avant.
C'est quand même une mythologie qui remonte à vachement loin.
Très forts, ils ont déposé. Marque protégée.
Pas de problème. Et donc Captain America, cet été pour arriver justement à ce que je disais, les Vengeurs, ce sera l'année prochaine, réalisé par Joss Whedon. Donc là,
on, oui, oui, wow, on attend wow, avec wow, impatience. Wow. Hein.
Là, on se dit, bon, ça va peut-être faire quelque chose. Alors, j'ai écouté une critique du film Thor le jour même de sa sortie sur France Inter.
Ah bon, j'ai cru que c'était sur FMR.
Non. Et la nana, que je ne citerai même pas, pourtant elle est assez connue, hein, a complètement descendu le film sous prétexte que la 3D était pourrie, qu'on pouvait très bien se passer de 3D. Elle a plus parlé de la 3D actuellement au cinéma avec l'exemple de Titeuf en 3D.
Non, mais de toute façon, ça n'est pas intéressant. Si vous allez au cinéma pour voir des films en 3D en relief, c'est que les films est plat. Donc il ne faut pas y aller pour ça.
Hein. Voilà, ouais.
Ça, c'est une erreur. C'est une erreur qu'on a vite écartée.
J'ai d'ailleurs pu le vérifier avec Rio.
C'est plat.
Eh ben en 3D, bon, voilà, hein, bon, c'est bof quoi.
Bon.
Et le film lui-même, bon, je veux dire, c'est pas extraordinaire.
Vous avez parlé la semaine dernière de Rio.
Oui, oui, mais moi je l'avais pas vu quoi. Moi, j'y suis allé le lendemain quoi, tu vois. Donc bon, voilà, c'est tout. Alors pour dire que le film, les décors étaient pourris, que l'intrigue était nulle, qu'on se faisait chier pendant 2 heures. Bref, ok, on laissera passer. Hein, parce que bon, bah, c'est le genre de critique qui préfère certainement voir un excellent film français soutenu par d'excellents acteurs français qui parlent d'excellents bourgeois qui se font chier parce que quand ils travaillent pas, ils ont des histoires d'amour et puis des histoires de cocufiage et des trucs comme ça. Bref, je passerai. Et Thor, donc, par une conjonction, bien entendu, de forces simultanées, que ce soit au cinéma ou que ce soit dans les comics, maintenant, on sait faire la part des choses. Et maintenant, on envoie du bois grave avec une sortie pratiquement simultanée en kiosque, mais également en librairie, de ce qui fait l'actualité, à savoir Thor. Alors, ça commence avec tout d'abord les Ultimate Avengers, c'est-à-dire les Vengeurs, mais dans la série Ultimate, dont Thomas vous avait parlé à l'occasion de la sortie des gros bouquins, hein, c'est-à-dire
des recueils, pas les éditions kiosques comme celui que tu as.
Voilà, les gros bouquins en librairie. Nous a déjà parlé un petit peu des différents personnages, mais là, c'est plus ou moins un reboot, on va dire, parce que les Vengeurs en Ultimate, c'était déjà sorti, hein, c'était déjà sorti en kiosque et tout. Et là, reboot complet, parce qu'on repart à partir du numéro 1.
Ah oui, effectivement, oui, jusque dans la numérotation, voilà. Reprenons.
Oui, c'est vrai également pour d'autres sorties. Il faut dire que l'offre Marvel s'étoffe, hein, il y a de plus en plus, il y a également le Marvel Top. On se rappelle, dans le début des années 80, fin des années 70, il y avait également un truc qui s'appelait Marvel Top où on fourguait des histoires qu'on n'avait pas pu caser ailleurs, et des histoires de super-héros qui n'auraient pas pu tenir la route d'un seul recueil. Donc on mettait de tout et n'importe quoi pratiquement, hein, sans être péjoratif, dans ce truc qui s'appelait Marvel Top. Et qui avait la particularité, c'était vraiment d'être deux fois plus épais que un recueil classique. Hein. Donc on avait un petit peu pour son argent. Là, pour les Ultimate Avengers, on prépare le terrain également. Et à l'occasion de la sortie de ce numéro 1 d'Ultimate Avenger, on va s'attacher à un personnage et à faire un petit peu développer la situation du personnage dans ce qui va être après les Vengeurs. Je vous dis tout de suite que le prochain Avenger, ce sera consacré à Iron Man. Tout comme ça, vous êtes calés. Alors dans ce Vengeur spécial Thor, il y aura également Captain America, bien sûr, puisque Captain America, c'est à la télé cet été. Et dans ce Vengeur...
Non, pas à la télé.
Au cinéma, pardon. Et donc dans ce Vengeur spécial Thor, on se retrouve dans une situation qu'on a déjà vue. Hein, c'est plus ou moins un reboot complet avec une histoire déjà connue, déjà plus ou moins vue, mais on s'attache plus au style en fait et à la manière de le raconter. Et c'est là qu'on en a un petit peu pour son argent parce que le scénario est quand même signé Jonathan Hickman, qui est une des grosses valeurs montantes chez Marvel, et surtout du dessin de Carlos Pacheco, qui lui, il n'y a pas de problème, il a déjà fait ses preuves, et c'est vraiment très très agréable comme dessin, ça le fait vraiment. Alors, je ne vais pas vous dévoiler un petit peu l'intrigue, mais il faut savoir que, à la manière des scénaristes modernes, que ce soit en série, que ce soit en cinéma, et maintenant, ça commence à être le cas de plus en plus dans les comics kiosques. eh bien, il faut vraiment suivre l'histoire. Ce n'est plus une histoire linéaire. Il y a beaucoup de flashbacks. Il faut savoir exactement d'une case à l'autre, pratiquement, hein, ou d'une demi-page à l'autre. On peut très bien se retrouver dans le passé.
Ouais, on est vraiment dans un cadre complexifié. De...
C'est très, très complexe à suivre.
Ce qui est venu d'ailleurs énormément via les scénaristes anglais, principalement. Hickman
est anglais.
Oui, forcément. qui, eux, sont moins justement dans un aspect linéaire, même s'ils ne connaissent pas forcément la bande dessinée franco-belge. Ils ont plus l'habitude, des éléments beaucoup plus compliqués, voilà. Narrativement.
Narrativement, c'est là que c'est assez intéressant de toute façon. Et l'histoire commence avec un personnage qui est complètement inconnu, qui se retrouve dans un super labo et tout, il ne se souvient de rien et tout, et puis il est plus ou moins étudié par différents personnages, et lui dit « Ouais, je suis Thor, je suis un dieu et tout », puis les autres le regardent comme ça, quoi. Et ils se disent « Ouais, c'est ça, cause toujours mon gars, tu nous intéresses ». Et il va survenir quelqu'un, et là, c'est là qu'il y a une petite nouveauté, en fait, c'est que ce quelqu'un est en fait Dan Foster, qui est supposé être
le Thor,
mais quand il n'est pas en costume, c'est son identité civile sur Terre, d'accord ? Dans les premiers Thor, d'ailleurs, originellement. Mais là, sauf que on a le personnage dont on ne sait rien qui est là, et le personnage qui arrive avec sa canne, bien sûr, mais ce n'est pas Thor, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui fait également partie du panthéon nordique. Je vais pas vous dévoiler l'histoire. Et on se dit, attends, il y a quelque chose qui déconne. C'est pas du tout raccord par rapport à l'histoire qu'on connaît d'habitude, ce à quoi on est habitué. Et là, déjà, première surprise. Et ça va se développer au fur et à mesure de l'histoire. Et on va faire des petits flashbacks qui vont permettre de se souvenir un petit peu de l'origine des pierres de runes. Du passage dans Asgard et des petites choses comme ça qui sont bien revisitées. À l'occasion, on ressuscite également, on peut dire, un ancien super vilain très connu dans le monde de Marvel, le Baron Heinrich Zemo.
Crâne rouge.
Zemo, c'est un autre. Le crâne rouge, c'est un autre. Et on va avoir une histoire assez sympa quand même, quoi, avec des runes très caractéristiques. On va dire non, ça ne veut pas dire ce que tu crois.
Très explicite.
C'est le symbole runique des éclairs. Tu vois, alors moi je dis de choses vraiment, vraiment très sympathiques. Bon, c'est assez sanglant quand même, il faut dire, hein, c'est assez violent. Donc ce n'est pas à mettre sous toutes les mains, mais ça reste. Et là, au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que le personnage est quand même Thor et tout, il n'y a pas de problème. Et qui va commencer déjà à développer ses petites particularités qui est le fait des Ultimates. Hein. C'est-à-dire qu'on s'affranchit vraiment, ça c'est le thème des Ultimates. On s'affranchit de tout l'univers, de tout ce qui est passé avant, on s'en fout, on démarre à zéro. Ça c'est le principe des Ultimates. Et là, ça vaut vraiment le coup pour ce personnage, ce Thor.
Éphémère sur le supplément week-end, il est midi et 35 minutes, et du sport reste dans le multivers de Marvel.
Ouais, avec Marvel qui, on va dire, recycle, mais parce que en fait, eh bien, c'est ni plus ni moins que la réédition d'anciennes histoires, d'anciennes arcs, mais présenté dans une collection un petit peu plus luxueuse. Alors, place d'avoir un truc souple et tout, je sais pas si tu te rappelles, il y avait ces collections cartonnées qui sortaient en kiosque et tout, à des prix défiant toute concurrence, avec des histoires sélectionnées. Et ça permettait de faire une petite collecte assez sympathique. On avait eu ça avec les super-héros en général chez Marvel. On avait eu toute une collection Spider-Man, une collection cartonnée, rigide, hein, des trucs bien. Et là, eh bien...
qui était accompagné d'un fascicule pour voilà, justifier le frais, que ça
les
soit...
fascicules, tout le truc.
Si je me souviens bien, c'était il y a 6-7 ans.
Non, il y en a eu il y a un an, deux ans, me semble-t-il.
Oui, mais ils avaient commencé il y a 6-7 ans.
Voilà, c'est ça. Et là, eh bien, nouveau thème, c'est Marvel et les grandes sagas. Et donc, chaque numéro, chaque sortie, hein, et là, il ne faut pas louper le coche, hein, c'est une sortie tous les 15 jours. Mais si vous loupez la sortie précédente, hop, c'est retiré des kiosques, donc vous ne pouvez plus la choper, ou alors il faut la commander, enfin bon, c'est un petit peu plus compliqué. Là, ça s'appelle Marvel, les grandes sagas. Alors, toujours le même principe, sauf que là, eh bien, ce ne sont plus des couvertures rigides, mais des couvertures souples,
souples, oui.
Ok, mais quand même pas mal d'épaisseur, on va dire, hein, plusieurs histoires, ça vaut quand même le coup. Et avec toujours le petit fascicule qui est donné en bonus. Et là, auparavant, eh bien, pour par exemple Spider-Man, la précédente collection, eh bien, c'était chaque petit fascicule était un numéro qui se suffisait à lui-même. Alors que là,
c'était des histoires complètes.
Voilà, c'était des histoires complètes. Et là, il faut se procurer l'ensemble des fascicules parce que c'est une histoire à suivre.
Ah, les petits rigolos. Ah, ils ont trouvé le
chien.
Ils ont trouvé quelque chose. Hein.
Bon, on s'en passera quand même, mais ça vaut quand même le coup parce que si vous avez envie de découvrir un super-héros en particulier, bon, en ce moment-là, et puis jusqu'à la fin de la semaine, je crois, prochaine, c'est Thor, donc il faut en profiter. Hein, alors là, ce petit fascicule s'appelle Marvels, hein, c'est le numéro 2 de Thor, le premier c'était Spider-Man.
Ouais.
Hein, donc, mais par contre, ça vaut par sa qualité. Alors déjà, la précédente collection, ça avait déjà été un artiste qui peignait, qui faisait des peintures, de la peinture, pas sur ordinateur,
Alex
pas
Ross.
Avec crayon et tout. Et bien là, rebelote, c'est de nouveau notre ami Alex Ross.
Gagné, oh putain. Oh non, mais ce type-là est un dieu aussi. Franchement, je vous recommande...
Et avec Kurt Busiek au scénario.
Je vous recommande Marvels, au pluriel, ou bizarrement c'est dans l'univers de DC d'ailleurs.
Oui, c'est DC, ouais.
C'est chez DC, et c'est dessiné par Alex Ross, mais vous pleurez à chaque planche.
Ouais, ou Oncle Sam, quoi.
Aussi, oui, ouais. qui est vraiment impressionnant, qui est une allégorie de l'oncle Sam des États-Unis dans un États-Unis actuel, c'est-à-dire en ruine, ruiné, dans un sale état.
Oui, une critique très féroce de l'Amérique, ce qu'elle est devenue, les mythes fondateurs.
Voilà, mais c'est Alex Ross et graphiquement, chaque toile est une toile.
C'est énorme. Enfin bon, c'est énorme, quoi. Mais par contre, en contrepoint, on va dire, dans ces grandes sagas, on nous propose des histoires qui datent, mais qui sont quand même des moments qui sont marquants, hein, dans la continuité de l'univers Marvel et dans l'univers de certains personnages. Et là, bien, on a choisi, bon, pas du merdique quand même, hein, parce que on a quand même choisi dans New Guest au scénario, John Romita Jr. au dessin. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est ce sont des histoires qui datent de 1999-2000, début des années 2000. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est que on est nouveau dans un dessin assez classique, on va dire, qu'on peut qualifier d'ancien, hein, parce que si maintenant vous achetez un Marvel, même un DC,
on est vraiment dans les années 80 avec l'aspect très métallique.
C'est début 2000, hein, c'est sorti l'original.
Mais ce que tu as montré, il y avait vraiment l'aspect métallique qui était rendu et tout ça.
Voilà.
Un peu aussi le côté flamboyant, effectivement, des fin années 70, puisque c'est un dieu, donc il faut y aller, quoi.
Le dessin est quand même assez simple. Les visages ne sont pas travaillés, les corps ne sont pas vraiment travaillés et tout. C'est assez marrant de se procurer ce genre de truc-là, par exemple, si vous êtes férus de comics, de voir un petit peu l'évolution du dessinateur, John Romita Jr. en l'occurrence, dans ce numéro, dans ce Thor, par rapport à ce qu'il fait sur Kick-Ass. Et là, ça n'a plus rien à voir. C'est vachement différent. On voit que le dessinateur a évolué. On va pas dire qu'il s'est amélioré parce que peut-être qu'il a adopté un nouveau style qu'il prend plus de temps pour dessiner ses planches. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant. L'histoire en elle-même est pas mal, hein. C'est surtout consacré sur Thor, avec une petite incursion de Namor dans la dernière histoire. Là, c'est pas mal aussi. Et là, pour l'instant, ça vaut pas encore trop cher, vu que ce numéro 2 ne coûte que 7 euros, hein, avec tout compris, hein, c'est-à-dire le petit fascicule,
en kiosque,
le truc en kiosque. Donc, parce que les prochains, ça sera presque 10 euros.
Je crois pas que t'es donné la périodicité, c'est tous les mois ?
Tous les 15 jours, c'est ça. Il faut être hyper rapide, là, sur le coup.
Oula, ouais, effectivement.
Avant, c'était pratiquement tous les mois. Hein, ça sortait, il y avait 6-7 numéros. Là, il va y en avoir une dizaine. Oui, 10 au total. Mais ça va être tous les 15 jours. Donc, il faut pas louper le coche, d'accord ? Alors, vite fait, là, ça n'a plus rien à voir avec Marvel, ça n'a plus rien à voir avec Thor, mais c'est quand même un super-héros. Et c'est le super-héros qui, à mon avis, cartonne le plus et le plus intéressant actuellement, c'est Batman, dans Batman Universe, le numéro 6, qui est paru, qui date d'avril, donc, mais c'est un bimestriel, donc vous avez vachement le temps d'y aller. Et surtout parce que ben, ce numéro 6 est un numéro, on va dire, charnière. C'est la fin de la première aventure de Batman après la mort de Batman. Depuis le début de ce Batman Universe, on se rappelle que le premier numéro, le numéro 1 Batman Universe, s'appelle Batman R.E.P, c'est-à-dire Rest in Peace, Batman, et on assiste à l'enterrement de Batman, hein, avec tous ses anciens super vilains qui viennent lui rendre un dernier hommage et tout, je me rappelle, machin, enfin, c'est assez
et
rigolo.
Et en fait, chacun a une histoire fantasmée autour de lui.
Voilà, ouais.
C'est très, 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 très bizarre, malsain, même Alfred... T'es là, tu fais ah ouais quand même.
Voilà. Alors donc la majeure partie de cette histoire, donc Life After Death, est écrite et dessinée par Tony Daniel. Lui fait tout, hein. Lui non, c'est pas je fais que le scénario et un autre qui dessine. Lui il fait tout. Et là bon bah ça vaut vraiment le coup parce que bon bah pour vous réveiller un petit peu de choses, on sait maintenant qui est le Batman, qui est le personnage qui remplace. Bruce Wayne et qui a endossé le costume, ça on le sait, il n'y a pas de problème, mais par contre c'est un univers qui est hyper noir, qui s'apparente plus au polar, mais au polar vraiment hard-boiled, hein, parce que ça dégomme à tout va. Il y a le super vilain qui veut prendre Gotham, puisque bon bah les super vilains, tous les méchants se sont dit ouais super, Batman est mort, on peut y aller, à nous la grande vie et tout. Et l'un des super vilains vraiment qui veut mettre tout, au départ tout Gotham sous sa coupe, et ensuite qui va trouver un espèce de sérum qui pourrait carrément annihiler toute volonté de la part d'être humain.
Laisse-moi deviner, le Joker,
non,
ou
pas du tout. Non, on croyait que c'était le Joker, mais c'est pas lui, c'est un autre super-vilain qui arrive même, c'est-à-dire qui dégomme même les autres super-vilains, c'est-à-dire qu'il coupe les ailes du pingouin, enfin des trucs bien trash, quoi. Hein,
vraiment, ah putain, ouais, effectivement.
Non, c'est vraiment, vraiment trash. Et il veut carrément envahir le monde, quoi, c'est-à-dire conquérir le monde, quoi. Alors bon, bah, ça va assez loin. Il y a également le retour de la famille Falcone, c'est-à-dire la vieille mafia italienne qui veut également sa part du gâteau. Et là, ça part vraiment en couille et c'est carrément que du bonheur. Et là, on en arrive à la conclusion, donc, hein, dans ce numéro, la conclusion de l'histoire de Tony Daniel et de cette première mouture de Batman sans Batman, c'est-à-dire sans Bruce Wayne. Et là, bon, bah, je joue avec le retour de Catwoman, Catgirl, enfin bon, des personnages qu'on aime bien, il n'y a pas de problème. Et dans ce numéro également, le début de l'histoire suivante, mais là qui est, on va dire, pas vraiment concentré sur Batman, c'est plus le truc Batman et Robin. Et là, bon, bah, c'est du pur britannique. Grant Morrison au scénario, Cameron Stewart au dessin et Alex Sinclair aux couleurs.
Oh putain, ça doit défoncer rien qu'avec Morrison au scénar.
Et quand je vous dis qu'en plus c'est super british, c'est que Batman se trouve à Londres et que toute l'histoire est centrée sur l'Angleterre, sur Londres et sur les mythes. Je me suis dit à un moment, merde.
Ça a déjà été.
C'est du Alan Moore parce que bon, bah, il y a vraiment beaucoup de références.
Ça avait déjà été fait avec un Batman by Guy's Light où il est face à l'éventreur dans Londres des années 1890. Hein.
Oui, sauf que là, c'est bon, bah, c'est de nos jours et bon, bah, voilà. Quand on est
dans la vie de la mieux surveillée du monde, je pense qu'il a, il doit bien en chier. Hein.
Non, parce que bon, bah, ça se passe assez bien pour le moment, mais il sait pas où il fout les pieds. Vraiment, il ne sait pas où il fout les pieds. Et on a des personnages qui sont complètement loufoques, à moitié cinglés. On se croirait à un moment dans Alice au Pays des Merveilles, carrément, quoi, tellement les personnages sont tapés. Enfin bon, une espèce de madateur. Enfin bon, il y a pas tout et n'importe quoi, mais presque. Et là, ça va vraiment très loin, donc on attend la suite qui paraîtra dans le prochain Batman Universe numéro 7. Donc, avril, mai, en juin prochain. Voilà, Batman Universe numéro 6. Alors, bon, essayez de procurer les autres avant parce que c'est nettement plus intéressant et l'histoire vraiment vaut le coup. Et bon, moi j'attends que ça sorte en recueil parce que bon, bah, je rachète direct. Même si j'ai lu l'histoire déjà, que j'ai les 6 numéros, que je peux me le refaire quand je veux, il n'y a pas de problème. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes.
Écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz, c'est le Super Week-end numéro 272 déjà, et il est 12h46, on se fait un petit break, n'hésitez pas à aller sur le site superweekend.fr si vous voulez relire nos chroniques, écouter vieilles émissions, mais surtout nous écrire, n'hésitez pas, mais alors vraiment pas, ça me fera plaisir. Un petit peu de ukulélé avec Madame River Hawaiian et Aloha no Honolulu. Je vais y arriver, oui ou mince. We'll be right back. police d'État.
Ouais, Hawaii Five-O, donc, alors ça c'est le nouveau générique hein, de la
non,
série.
Non, c'est l'ancien.
Ça c'est l'ancien.
C'est l'original.
Ah, t'as le pas nouveau, chopé le nouveau.
Le nouveau, il est ultra speed. Non, je l'ai enregistré et j'ai oublié de l'extraire, alors, j'ai pas eu le temps.
Ah, c'est dommage parce que le nouveau générique, bon bah ok, c'est une ressuscité de l'ancien, hein, on a repris le
voilà.
Même. Mais c'est une preuve de plus que Mike Post est quand même le meilleur compositeur de série, de musique de série du monde. Parce que rappelle-toi, c'est lui qui avait déjà modernisé Dragnet, la nouvelle version.
Je l'ai la nouvelle, attends, hein, je dis une bêtise, on vient de me le suggérer. Merci YouTube.
Voilà.
Enfin, je ne sais pas s'il va démarrer. Non, bah, Bufferling, désolé.
Voilà, donc, et c'est lui également qui, donc,
revisite... Ah, mais c'était lui qui avait fait l'original en 69.
Non, l'original de Hawaii Five-O, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est Morton Stevens.
Oui.
Donc, voilà, mais c'est Mike Post, donc, qui refait le nouveau générique, hein, le générique de la série actuelle. Hein, et là, bon, bah, ok, hein, c'est vraiment égal. Également, ça ne trahit pas l'esprit, bien sûr, hein, c'est, bon, bah, on copie, on réarrange, hein, c'est un réarrangement, mais c'est vraiment très très bien foutu, à l'instar de Dragnet. Moi, je trouve ça vraiment très très bien, de toute façon. Alors, la série en elle-même, ok, eh bah, c'est une série... Beaucoup d'action, il y a plus d'humour.
C'est plus body movie, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire la bande de potes, etc., amis, plus ou moins, même si dans les trois premiers, ils ne sont pas vraiment.
Ouais, ça se laisse regarder.
C'est un peu comme si vous regardez le Super Bowl Weekend, ça doit être chiant au bout d'un moment.
Ouais, c'est ça, quoi. Disons que bon, ben, les histoires sont plus ou moins tout le temps les mêmes, on va avoir le même rythme à chaque fois. Par contre, bon bah au niveau de la photographie, c'est très bien rendu, il n'y a pas de problème, il y a de gros moyens, des super gros moyens, c'est clair. Hein.
C'est l'HD avec pas mal de filtres couleur jaune pour donner l'aspect chaud et tout. Après, c'est vrai qu'il garde un côté, je vais dire, un petit peu roots, parce que c'est souvent de la caméra à l'épaule, on est vraiment au cœur des fois des fights. On voit les comédiens vraiment se prendre bien se prendre dans les voitures, c'est-à-dire ça roule vraiment. Quoi.
Ah oui, non, mais c'est bien fait, hein. De toute façon, c'est de la bonne facture. Avec en plus, au niveau de l'intrigue, eh bien, le fil rouge qu'on va certainement suivre. On a décidé d'accrocher le téléspectateur depuis le premier épisode avec ce super vilain interprété par James Masters, Spike. Qui plonge dans l'eau, est-il mort? On n'a pas retrouvé son corps. Mais bien sûr que t'as pas retrouvé son corps. Il va réapparaître, espèce d'idiot. T'as pas compris.
Si possible, deux épisodes avant la fin de saison. Avec peut-être un repassage au moment des mesures d'audience.
Oui, bien sûr. Zou. Ou alors juste quelques citations d'un épisode à l'autre, histoire de faire patienter un petit peu. Histoire de continuer à faire regarder le téléspectateur. Bref, en plus, la série a bien marché aux États-Unis, elle marche bien, hein,
ouais.
Avec une moyenne de plus de 10 millions de téléspectateurs à chaque épisode. Donc, ça va. L'audience.
Attention, il faut relativiser 10 millions sur un bassin de population de 350 millions. Actuellement, c'est énorme. Puisque aux États-Unis, énormément de gens maintenant ont les basic câbles, ont énormément de chaînes de rediffusion, et c'est très rare, même pour les trois très grands networks, d'arriver au-delà de 7 millions. Ça arrive beaucoup moins fréquemment qu'avant. NBC est souvent aux alentours des 5-6 millions, ce qui est plutôt catastrophique pour eux. CBS, eux, ils sont dans les 10-15, notamment grâce principalement à la franchise CSI. Et c'est chez eux que passe Hawaii Five-O.
Enfin bref, bon, pour conclure, on peut dire que c'est une bonne série. C'est une série du samedi soir qui se regarde à l'aise et qui ne partira pas des rediffusions prochaines.
Oui, parce qu'il y a les petits trucs d'humour et les trucs qu'on voit qui repassent derrière. Il y a énormément d'usages d'ailleurs de mots hawaïens. C'est extrêmement dommage que M6 ne propose pas de VO. Là, franchement, je les ai maudits.
Ah oui.
Là, mais franchement, hein, sérieusement, diffusé par paquet 3, déjà, ça fout les boules. Alors ça, non, pitié.
Le lobby des doubleurs a encore frappé.
même pas. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que c'est vraiment, c'est du style. Bon, on va voir ce que ça donne. Enfin bon, c'est un petit peu dommage. C'est une série, en tout cas, avec un casting bien rajeuni hein, par rapport à la série originelle. Il y a même une ex-Cylon dedans.
Oui, non, mais en plus, c'est bien parce qu'il y a même des jeunes filles qui ne se sont pas fait pousser la poitrine. Hein, alors donc c'est assez agréable quoi, tu
c'est,
vois.
C'est à voir. Il y a aussi pas mal de gens gros, faut dire qu'il y a pas mal d'obèses à Hawaï.
Ah, oui, oui.
Donc de ce côté-là, c'est plutôt ça a rien de réaliste, hein. Attention, hein, on se calme. Mais je vais dire que ça pourrait être justement encore plus photoshopé. Ben non, ça reste une série relativement clean dans ses intentions.
Bon, bah, à part ça, bon, la semaine prochaine, à part la saison 10 inédite de Smallville qui démarre, c'est la dernière saison de Smallville. Et là, c'est la première saison où on verra Clark Kent dans son super costume. Et où il sera vraiment là, allez, c'est le départ, le vrai départ. C'est le départ de la série également, mais également avec pas
dire
mal
que
de
la série...
stars intéressants.
Ouais, mais la série coulait vraiment. Hein. Ouais, ouais. Sur CW, ils ont vraiment chuté point de vue audience. C'était franchement pas énorme.
Mais c'est peut-être
donc, ils ont laissé sous perfusion. Je sais pas, peut-être qu'ils voulaient peut-être se relancer avec les films derrière et ça.
Non, mais bon.
Ça a pas vraiment parti.
Pour cette saison, ils ont mis le paquet, ils se sont dit c'est la dernière, il n'y a pas de problème. On rabat un petit peu les anciens personnages qui avaient été délaissés. On sait que le personnage de Luthor, c'est surtout l'acteur qui ne voulait plus jouer dans la série, qui avait arrêté et tout. Ok, il revient.
Il revient pour les deux derniers. Pour l'épisode double de fin, voilà.
Oui, parce que, c'était quand même un des personnages qui faisait que la série marchait aussi. Hein, parce que, le personnage de Clark Kent, enfin lui-même, était plutôt.
Il était gentil,
fadasse.
et Paysous, hein. Smallville, Paysous.
Et oui, donc c'est sur TF6 à partir de vendredi prochain, 20h40. Une série complètement inédite qui démarre ce soir sur Arte, mais à réserver à un public très averti.
Oh,
c'est à partir de 22h35. C'est Xanadu. Xanadu,
c'est une
émission
fiction
qui française.
C'est l'émission qui passe mercredi soir sur FMR.
Non, pas du tout.
Hein, c'est pas.
C'est une fiction française avec des acteurs français réalisés en France et qui a pour thème le porno français, bien sûr. Et ça raconte au départ, le pitch de départ est très simple, hein, ça raconte l'histoire du méga producteur de cinéma porno à la française, tu sais, mais le porno...
Je laisse deviner, il a un toucan.
Laisse deviner, ouais, c'est ça, quoi. Mais porno classe, ça se passe dans des châteaux, enfin bon, tu vois, c'est pas du...
c'est pas du gonzo, du amateur.
C'est pas du gonzo, hein, pas du tout.
Attention, calme, je t'y a pas à changer de classification maintenant, hein, t'as vu.
Non. Et ce genre de cinéma est en train de se casser la gueule, justement... parce que un autre style apparaît et est nettement plus vendeur. Et donc, lui reste sur ses acquis, sur ses fondamentaux. Et c'est donc ces frangins qui vont essayer de prendre la relève, hein, pour essayer de donner un nouveau souffle à la boîte familiale. On va l'appeler comme ça, avec dans les.
J'ai lu une interview du scénariste. Il a dit qu'il se voulait nettement plus réaliste que Hard, série qui était diffusée sur Canal, qui était hilarante, mais vraiment qui était très drôle, mais un petit peu trop caricaturale, puisque là aussi il y avait l'idée du il faut du porno et histoire pour intéresser les gens et tout. Là, il dit, je veux quelque chose de beaucoup plus recentré et un petit peu plus réaliste.
Voilà, ouais. Donc,
j'attends de voir quand même.
Le réalisme, on l'aura peut-être. Si c'est diffusé sur Arte, ça veut dire que déjà au départ,
il y a moins de considération de peut-être de.
Voilà, c'est ça.
D'audience. Quoique je me méfie, Arte maintenant, il passe plus de films ou de séries en VO. Hein.
Oui, mais
attention.
Ils choisissent quand même un petit peu, quoi, au départ. Hein. Ils prennent quand même pas n'importe quoi. Alors, et Julien Boisselier. Vanessa Demouy, Jean-Benoît Malartre dans les rôles principaux, mais également la participation de vrais acteurs et actrices du X qui sont dans la série. Bon, rassurez-vous, c'est pas un truc X, hein, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de scène de sexe et tout, même si c'est quand même réservé à un public très très averti, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'à voir la bande-annonce sur Arte d'ailleurs, hein, pour s'en rendre compte qu'ils ont mis le paquet. C'est un petit peu putassier quand même, à mon avis, hein, parce que
ils ont mis le paquet. Non, s'il te plaît.
Tu regardes la bande-annonce.
Je te rappelle qu'il est 13h. Hein.
Tu comprends, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, Xanadu, c'est ce soir à partir de 22h35, deux premiers épisodes de cette série qui en compte 8 pour cette première saison. Et sinon, ça va être la semaine. Ça va être la semaine sur Arte. Monty Python.
J'ai oublié de la préparer, je suis désolé.
C'est pas grave. avec comme théma demain soir, bah, une théma Monty Python, bien sûr, et pour illustrer cette théma, un film qui n'est pas tellement connu, hein, des Monty Python, parce que ce n'est pas vraiment un film de Monty Python, mais un des membres des Monty Python, Terry Jones en l'occurrence, qui a tourné ce Eric le Viking en 1989.
Ah bah tiens, on reparle des Vikings.
Avec Tim Robbins, Michael Rooney, Ursa Kitt, également John Cleese, bien sûr. Hein, mais bon, c'est un petit peu décalé. Hein, c'est une... Bon, mais ça reste quand même l'esprit du Monty Python. Suit à 22h10 de Monty Python, toute la vérité ou presque. Un documentaire en plusieurs parties de Bill Jones, un anglais, en 2009. Donc à l'occasion du 40e anniversaire des premiers Monty Python.
Et qui a été financé par Google et YouTube, puisque c'est les extraits de ce documentaire qui ont annoncé que une partie des sketchs des Monty Python, et en plus de manière tournante, sont disponibles en intégralité sur YouTube et tout ça. C'est là où ils ont fait les fameuses scènes, où ils ont fait une intro gaguesque. Donc voilà, c'est dedans. Justement, moi j'en ai vu une partie, c'est plutôt sympa. Il y a eu régulièrement hein, des émissions avec des réunions de pratiquement tous les anciens, puisqu'il en manque un. Quoique, il était sur scène aussi, hein, son urne.
Ouais, mais enfin, dans ce documentaire, donc, en plusieurs parties, donc les deux premières parties, c'est demain soir. Et ensuite, eh bien, au courant de la semaine, lundi prochain, il y aura Sacré Graal en première partie soirée et les deux parties suivantes de ce documentaire. Mmh. Et jeudi prochain, La vie de Brian et à 22h10 toujours, eh bien, les deux dernières parties de ce documentaire où les intervenants principaux, eh bien, vont raconter la genèse, comment ils se sont rencontrés, comment ils ont décidé de faire le Monty Python, comment ils expliquent qu'ils ne savent toujours pas ce que ça veut dire Monty Python et comment ils ont trouvé ce nom, mais ce qui veut rien dire, mais enfin bon... peuvent pas expliquer le titre de toute façon quoi. Hein,
voilà.
Ni l'autre.
Si vous êtes choqué que la fête du travail ait lieu le jour de la béatification de Jean-Paul II, c'est-à-dire demain, eh ben regardez La vie de Brian, ça vaut vraiment le coup parce que l'ensemble des gags qu'il y a dedans tient uniquement sur les contradictions de la Bible elle-même, ne serait-ce que le prêche de Jésus sur le mont des Oliviers.
De la religion en elle-même.
Où tout au fond, il y a les mecs qui disent qu'est-ce qu'il a dit, etc. Et ça tourne au téléphone arabe et c'est à pleurer de rire. Ou encore quand il écrit Romans Go Home sur les murs en latin, c'est là où on voit tout le gag justement des universitaires anglais que sont les Monty Python.
Ah oui non mais là c'est énorme.
C'est hein, du c'est grand,
énorme.
C'est du grand.
C'est énorme. Bon, on termine vite fait avec c'est vrai qu'elle retarde hein, ce truc.
Et 13h03 si tu veux savoir.
OK, donc comme on était à Hawaï avec Hawaii Five-O avant, je me suis dit tiens, je vais vous faire une petite thématique autour du Pacifique avec des films qui ont plus ou moins à voir avec ce qui passe dans le Pacifique ou tout autour, en délaissant quand même
les films de requins.
Les films de requins. Bah non, il n'y en a pas qui se passent dans le Pacifique. Il y a bien Shark in Venice cette semaine, mais bon, un requin à Venise, t'as jamais vu ça moi non plus, mais il faut vraiment regarder ici pour le voir. Un requin d'eau douce quoi en plus, bon, c'est quand même vachement rare. Et j'ai aussi délaissé un petit peu toute la côte américaine, on va dire, la côte ouest américaine, parce que sinon on pouvait gazer pratiquement tous les films qui ont lieu Los Angeles, hein, sans problème quoi. Donc ce soir sur RTL9, un film australien de George Miller en 1982, c'est L'homme à la rivière d'argent qui est un western.
Oui.
Avec Tom Burleson, Terrence Donovan et Kirk Douglas. Ce soir, il y a également sur Ciné Cinéma Premier la fin de la première saison de The Pacific, hein, la série sur la Seconde Guerre mondiale côté Pacifique, instillée par Steven Spielberg, entre autres. Mmh. Et sur Ciné Cinéma Émotion, à 20h40, Flirt à Hawaï de Michael Salomon avec Heather Locklear, Robert Buckley et Vanessa Williams. Demain sur CinéFX, Blackwater, un film d'horreur australien de David Nerlich et Andrew Trowski avec Diane Glenn et Maeve Dermody. Lundi, il n'y a carrément que dalle, rien, que dalle, nada. Mardi, 13ème rue, 20h40, Fast and Furious, Tokyo Drift. Fast, Too Furious, c'est le 2, ça c'est le 3, Tokyo Drift.
Oh merde, pardon.
Ah oui.
Alors c'est tu veux dire Tokyo, que je me suis planté pendant l'interview que j'ai réalisé au TGS.
Peut-être. Hein. Justin Lee en 2006. Mercredi, Canal Plus Décalé vous propose soit un film américain de François Girard en 2009 avec Keira Knightley, Michael Pitt et Alfred Molina. L'histoire d'un officier anglais qui va qui va en Chine au siècle dernier pour essayer d'acheter des verres à soie.
Oui.
D'accord.
Et à l'époque, c'était, c'était interdit d'exportation. C'était pas au siècle dernier, attention, hein, tu parles du 19e siècle.
Oui, au 19e siècle. D'accord.
Voilà, mais à tel point donc que c'est un conte qui dit que c'est une princesse qui avait caché les cocons dans ses cheveux.
Je connais une autre histoire, mais elle est un peu longue.
Il y en a plusieurs.
Je te la ferai un autre
merci,
jour.
Je vais pouvoir dormir ce soir.
Voilà. Ce soir, mercredi soir également sur Action, Le Temps de la Colère de Richard Fleischer en 56, un film de guerre avec Robert Wagner, tout jeune, tout beau, tout fringant.
Avant la
c'est une histoire de Seconde Guerre mondiale avec des prisonniers américains, prisonniers des méchants japonais. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont méchants ces japonais. Jeudi sur Orange Ciné Novo, Sweetie, un film australien de Jane Campion. Ouais, bah c'est normal, elle est australienne, hein, 89, avec Genevieve Lemon et Karen Colston. Et vendredi sur TCM à 23h, Mad Max 2, australien donc, à fond les manettes, George Miller est le meilleur de la série. De toute façon, il y en a qui préfèrent le 1, il y en a qui préfèrent le 2 et tout. Les deux styles complètement différents, enfin deux histoires différentes, même personnage, mais vraiment c'est les deux qui dépotent à fond les manettes. Et ça, c'est le 2, pour ceux qui aiment bien les trucs bien bourrins et tout, à fond les manettes. Ça, ça plaît parce que bon, le 1 est un peu plus, on va dire, monté en puissance de la violence et tout, c'est nettement mieux, mais c'est différent. Ok. Voilà, c'est tout pour cette petite thématique autour du Pacifique.
Alors, comparé à la semaine dernière, on va finir à 13h07 et donc Sushi et n'est pas arrivé.
Ouais, bah, elle va arriver parce que bon, elle va arriver.
Elle a dû se dire oh non, ils vont encore parler pendant des heures et tout, ils vont déborder. Voilà, pas de résumé, je suppose, pour Andrew. Hein,
je m'en suis rendu compte juste avant, désolé.
C'est pas évident à faire une émission, c'est pas évident. T'as aimé hein, d'être à ma place en régie, tu t'es bien planté hein, sur l'intro.
Ouais.
J'ai pas réécouté en entier. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y avait un mec qui est factuellement dans le générique qui était même présent. Pareil qu'il m'a traité d'Hitler en antenne. Hein. Je sais même pas si c'est vrai, je sais que s'il l'a fait. Nom d'un marteau à tapisser, vous avez manqué le début du supplément week-end. Bah oui, je suis obligé de faire avec, il n'y a pas de résumé, faut que je prévoie les scripts en double la prochaine fois pour le prompteur. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver nos chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. D'ailleurs, cette semaine, sur le site du supplément week-end, si je me souviens bien, il y a une interview en vidéo réalisée par Thomas et à la vidéo d'ailleurs par Solarus de cosplayer qui est plutôt sympa et plein d'autres choses. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. J'oublie aussi la chronique de Life de Keith Richards et James Fox par Monsieur Duss qui avait été chroniqué il y a quasiment un mois. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec notre décrochage local Booster FM. Et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode... la semaine prochaine. Et ce sera en plein pendant le festival de la bande dessinée Toulouse. Festival-bd-toulouse.com pour avoir le programme. Ciao, bye bye!